France Culture. Du fond de la nuit je parle, du fond de la nuit, du fond de l'obscurité. Ô ami, si tu viens dans ma maison, apporte-moi une lumière et une petite fenêtre, que je puisse voir la foule dans la rue heureuse.
Shab mi oyad va pasas shab toriki. Va pasas toriki cheshm ha dast ha va nafas ha va nafas ha va nafas ha. Le couple. و صدای آب که فرو می ریزد قطره 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 از شیر. بعد دو نقطه سرخ از دو سیگار روشن. تیک تاک ساعت و دو قلب دو تنهایی.
Alors, la couleur des cheveux de Foulour, c'est quand même compliqué puisque je crois qu'au départ, elle était plutôt châtain clair, blonde, elle se teint les cheveux. Elle change très souvent son apparence physique.
J'aimais beaucoup sa photo où elle fumait une cigarette. Toutes les photos d'elle que j'ai vues incarnaient parfaitement ce que j'imagine être une femme iranienne de l'époque et d'aujourd'hui. Dans la douceur, très...
Moi, je la trouve pas spécialement belle. Je trouve que son visage ne correspond pas à ce qu'on décrit comme la beauté persane, etc. Pas du tout. Mais elle a un charme incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une vraie présence, en fait. Dans chaque photo, on le voit. C'est assez frappant, en fait.
Pas crue, mais très profonde, très, très forte dans l'expression de ses désirs. Donc.
Le réalisateur Chris Marker avait dit d'elle...
C'est quelqu'un qui a une coupe assez courte ou...
Noire, brusque, brûlante.
Qui est souriante, mais en même temps avec un regard triste.
Et je trouve que ces trois adjectifs qui résument très bien son apparence physique.
Foulour, Foulourzad. Incarner la lumière. Michel Pomaret, Franck Lilin.
گفتم کاش مرا بالها مثل کبوتر می بود تا پرواز کرده راحتی می یافتم هر آینه به جایی دور می رفتم و در صحرا معبان
Ça vient vraiment des profondeurs de son être parce que c'est une jeune femme, très jeune femme. Une voix simple mais qui donne encore une dimension supplémentaire, je trouve, à sa poésie. Personne ne lui Foulour comme elle-même. Elle zozote légèrement sur les S et les Ch, qui rend encore plus, attirante sa voix, et elle rend la musicalité de sa poésie à merveille.
اگر بالهای باد سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم در آنجا نیز سنگینی دست تو بر من است
1935
مرا باده سرگردانی نوشان
Naissance de Foulour Foulourzad dans une famille de la classe moyenne téhéranaise. Son père était un officier de l'armée du Shah. Elle grandit au milieu de 6 frères et sœurs dans une maison confortable au centre de Téhéran et reçoit une éducation stricte. Son père fait découvrir à ses enfants la littérature et leur apprend à lire avant les premières classes.
Il y a quelque chose du... J'ai l'impression qu'il y a une lamentation. Il y a quelque chose de l'ordre d'un gémissement long et profond, mais qui n'est pas du tout agaçant. Hein. C'est très beau de l'entendre. Mais c'est vrai que c'est le même rythme, et il y a comme une sorte aussi d'incantation, enfin, c'est un mélange de, comme une plainte, mais c'est doux, voilà, une douce plainte.
me souviens d'une phrase qui m'avait énormément frappée, mais j'étais très jeune, qui était « Je veux être le cri de ma propre existence, hélas, femme je suis ». Moi, à travers Foulour, j'ai compris ce que c'était qu'être une femme, donc forte, forcément, mais d'abord, juste être une femme.
La nuit tombe, et après la nuit, l'obscurité. Après l'obscurité, les yeux, les mains, et les souffles, les souffles, les souffles, et le bruit de l'eau qui goutte du robinet. Jouft. Puis les deux bouts rouges de deux cigarettes allumées, et le tic-tac de l'horloge, et deux cœurs, deux solitudes.
En 1951, elle tombe amoureuse d'un cousin éloigné et l'épouse malgré les réticences de sa famille. Le couple part s'installer à Ahvaz, où son mari est employé au ministère des Finances. Leur fils unique, Kamyar, naît l'année d'après. Foulour Farhadzad commence à publier des poèmes dans des revues.
J'ai péché. Péché dans le plaisir. Dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché dans des bras de fer. Brûlants et rancuniers.
Elle se rend de temps à autre à Téhéran afin de rencontrer des éditeurs. Première relation extra-conjugale.
L'union.
آن صوفیان ساده خلوت نشین من در جذبه سماع دو چشمانش از هوش رفته بودند.
Oh, ces prunelles sombres, mes purs soufis solitaires. Tournoyant dans ses yeux jusqu'à l'ivresse. Je le vis endeuillé sur tout mon corps, comme la chaleur rougeoyante du feu. Comme la réverbération de l'eau, comme un nuage chargé de pluie, comme le ciel dans le souffle des saisons chaudes. Voici qu'il s'était déployé vers l'infini, au-delà de la vie. Je vis la chair de mon être se dissoudre dans le souffle de ses caresses. J'ai senti le battement envoûtant de son cœur affolé, résonné. Dans mon cœur tout entier.
او را فشرده بودم در حاله حریق.
Comment est-ce qu'elle incarne la lumière? C'est pas facile hein, de parler de ça. La lumière de Foulour n'est pas une lumière incandescente, qui brûle tout sur son passage. C'est une lumière, c'est comme si elle éclairait une partie et elle laissait toujours une autre partie dans l'ombre. Et je trouve que sa poésie joue beaucoup là-dessus. Il y a par exemple beaucoup cette idée du clair-obscur, d'aller entrevoir la lumière à travers une lucarne petite et froide. Vous voyez, en fait, c'est toute une poésie aussi du paradoxe. Donc, sa lumière, avant toute chose, certes, oui, c'est la lumière de la nudité des corps. Hein. Dans un poème, elle le dit très bien. Il y a une lumière qui émane de cela parce qu'elle elle va justement déshabiller ce corps de l'amant, etc.
Nous avons pleuré l'un dans l'autre, comme des fous. Nous avons vécu l'un dans l'autre, tous les instants fugaces de l'union.
Donc il y a une lumière qui émane de cela, mais il y a aussi toute une partie d'elle qui est une lumière noire, une lumière de l'ombre, une lumière de la difficulté de vivre librement comme elle le souhaitait.
Tu me demandes de ne pas sortir de chez moi. Tu ne te demandes pas comment je peux passer ma vie entre quatre murs sans voir tout ce qui se passe dehors. Tu n'as pas respecté non plus mes idées et mes opinions. Pourtant, je n'ai commis aucune faute. Tu peux me juger comme tu veux, mais je sais que je ne me suis pas mal comportée. Ne prends pas mal ma lettre. car à l'instant où je l'écris, j'ai le cœur rempli de chagrin, de douleur, et je déteste la vie. Je t'embrasse, Furur.
Et donc, il y a aussi dans sa poésie les thèmes de la captivité, de celle qui est fugitive, de celle qui se sent comme un oiseau en cage, qui doit fuir en permanence. Voilà. C'est pour ça que c'est une lumière qui éclaire à la fois et laisse aussi dans l'ombre.
...1954-55, le couple se sépare. Après le divorce, la garde de leur fils est exclusivement confiée à la famille de son mari qui refuse que Furur le revoie. Elle revient à Téhéran, habiter chez ses parents pour un temps.
Le désir alluma des flammes dans son regard. Le vin rouge dansa dans le verre et sur le lit doux, mon corps, ivre de volupté, trembla sur sa poitrine. J'ai péché.
Publication de son premier recueil de poèmes, Captive. La franchise de sa poésie sensuelle alimente les rumeurs.
Péché dans le plaisir, près d'un corps tremblant et évanoui. Dieu, je ne sais ce que j'ai fait dans ce lieu solitaire, sombre et muet.
Elle dit, oui, j'ai péché, mais quel plaisir. Quel plaisir j'ai pris. Et on sent qu'elle est prête à recommencer. C'est ça qui est fabuleux, en fait. Dans un de ses écrits, elle dit qu'en fait, elle place d'une certaine façon la poésie et l'amour au-delà de la morale. C'est-à-dire que, justement, c'est ça aussi pour elle, la vie vivante. C'est une vie vécue librement. Et donc, l'idée de briser ce cadre de la morale où ça, il ne faut pas le dire, ça, ce n'est pas correct, ça, ce n'est pas conventionnel, etc. Et donc, une vie vivante, ce serait ça, oui. Oui. Se débarrasser de la question du péché, de la question de l'impureté ou de la pureté. Je crois, oui, qu'elle a cherché à atteindre ça.
La quête de Furur, je pense qu'on pourrait la résumer en un mot, ce serait la liberté. C'est la liberté d'être, hein, c'est la liberté de se réaliser comme femme et comme artiste. Et elle a fait les deux. Elle est morte très jeune, à 32 ans, mais toute sa vie, de l'âge de 14-15 ans, de l'adolescence à sa mort, a été une quête effrénée de liberté qu'elle a obtenue en payant le prix fort, puisqu'elle a dû renoncer à son enfant, elle a dû renoncer à avoir une famille. Mais ce prix-là, à ses yeux, n'était rien au regard de cette valeur ultime qui était la liberté de créer, la liberté d'être.
Ce que je trouve très beau, c'est qu'elle accueille plein de présence en elle.
La poétesse Laura Tirandas vient de retraduire avec son père les deux derniers recueils de Furur Farrokhzad.
En elle et au travers de son regard, c'est-à-dire des présences minérales, animales, végétales, quelque chose de cet inconnu derrière la fenêtre. Comme elle dit dans « Le vent nous emportera ». Voilà, il y a quelque chose, effectivement, qui se précipite vers une altérité, avec une soif.
Le vent nous emportera. Dans ma petite nuit, hélas, le vent a rendez-vous avec les feuilles des arbres. Dans ma petite nuit demeure l'angoisse de la ruine. Écoute, entends-tu le souffle des ténèbres ?
Je suis venue en France avec ma mère dans les années 80 et j'ai pas eu de famille, donc j'ai pas eu de personne autour de moi qui pouvait me parler de l'Iran et autour de moi une seule personne, ma tante qui était en Iran pendant très longtemps, me parlait de sa jeunesse en Iran et qu'elle aimait beaucoup Furur Farrokhzad. Et je crois qu'elle m'a mentionné en fait les liens et l'amour que Furur avait pour un poète très connu iranien qui s'appelle Sohrab Sepehri. Et en fait, c'est à travers leur histoire, je sais pas, par curiosité, que j'ai connu Furur. Et donc les poèmes qui évoquaient l'existence de Sohrab Sepehri. Mais donc les premiers poèmes que j'ai lus d'elle, c'est à travers ma tante. Et en ayant vraiment pas grande connaissance de la littérature iranienne et ni de la vie en Iran et rien. Donc c'était, on va dire, ma première relation avec mon pays de naissance.
Je regarde ce bonheur d'un œil étranger. Je suis accoutumée à mon désespoir. Écoute, entends-tu le souffle des ténèbres?
Razal, mon prénom, Soutoudé. Et j'ai 43 ans. Et je suis venue en France à l'âge de 3 ans avec ma mère.
C'était par ma mère. Elle avait un recueil en persan de ses poèmes à la maison. Elle-même écrivait aussi, ma mère écrivait de la poésie aussi à ce moment-là, elle écrit toujours. Et elle m'a lu un poème. C'est un souvenir qui n'est pas très net, mais...
Quelque chose se passe cette nuit. La lune est pourpre et inquiète. Et sur ce toit qui à chaque instant menace de s'effondrer, les nuages, tels une fouille endeuillée, semblent attendre le début de la pluie.
Je ne sais pas lequel elle m'a lu, mais je sais que le foulour est associé à ma mère. Voilà. C'est-à-dire que c'est elle qui me l'a fait connaître, c'est elle qui le lisait. En plus, je trouve qu'il y a aussi une ressemblance un peu physique entre elles. Et c'est intéressant parce que c'est voilà, une voix de femme. C'est une voix de femme qui me transmet une autre voix de femme. Voilà.
Un instant, et puis rien. Derrière cette fenêtre, la nuit frissonne et la terre est en train d'arrêter sa rotation. Derrière cette fenêtre, une chose non identifiée se fait du souci pour toi et moi.
Oui, je m'appelle Mariam Majidi. Je vis en France. Je suis née en Iran. J'écris, j'enseigne. Voilà.
Eh bien, je suis Niloufar Salighi. Je suis une Française d'origine iranienne et j'habite à Bruxelles depuis plusieurs années. J'ai commencé à m'intéresser à Foulour Falorsod il y a quelques années déjà, il y a assez longtemps. C'est un très grand nom de la littérature persane contemporaine.
Au corps verdoyant, pose tes mains tel un souvenir enflammé dans mes mains amoureuses.
Je m'appelle Reza Espidkar, je suis iranien, je suis né à Rasht, une ville au nord de l'Iran, au sud de mer Caspien. En tant qu'un adolescent, je pense que la première fois que j'ai vu le visage de Foulour, ça doit être sur un livre dans la bibliothèque de ma tante. Et c'était toujours lié à ce membre de ma famille qui était une personnage assez rebelle. Et je l'ai toujours compris comme une certaine féminité iranienne qui pose des problèmes, surtout pour certaines valeurs de cette société traditionnelle, patriarcale, dont ma famille en particulier ne faisait pas tellement partie, mais il y avait quand même cette charge sociale, ce qui est correct ou pas pour une jeune femme iranienne, et surtout par rapport à ses relations, son rapport avec des hommes.
Je m'appelle Mira de Bose. Je fais des films, des documentaires et je suis aussi chercheuse à l'université. Pendant mes études de cinéma, j'avais un professeur qui nous a montré le film Le Foulour, La Maison est Noire. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Foulour, donc c'était vraiment la première fois que j'avais entendu sa voix. Et c'était vraiment sa voix par laquelle j'étais tellement frappée, marquée. Je me rappelle que j'étais vraiment bouleversée. Je voulais immédiatement aller à la bibliothèque et trouvé toutes les traductions que je pouvais trouver. Et après, ça m'a tellement marqué que j'ai voulu apprendre la langue persane. Et je pense que donc, c'est vraiment grâce à Folour.
Livre tes lèvres, telle une douce sensation d'exister, aux caresses de mes lèvres amoureuses. Le vent nous emportera. Le vent nous emportera. Le lien que j'ai avec Folour, c'est le lien que j'ai avec une grande poétesse de la langue persane. J'écris en persan et en français. Donc ce lien est primordial pour moi, parce qu'elle me nourrit. Elle a une langue moderne, neuf, mais qu'elle a puisée dans les traditions de la langue persane, des traditions qu'elle a dépassées, qu'elle a renouvelées, rénovées. L'Iran et sa littérature sont basées sur la poésie. Le roman est venu beaucoup plus tard. C'est la différence avec la langue française, par exemple. Le roman nous est arrivé vers le début du XXe siècle, alors que pendant plus de 1000 ans, nous avions la poésie. Et donc, être poète en Iran, il faut vraiment ou entrer dans les carcans traditionnels, ou alors avoir beaucoup de force pour s'opposer à ces carcans. Et je pense que c'est ce qu'a fait Folour Farrokhzad avec beaucoup de force et de finesse. Elle a renouvelé, elle a démocratisé la langue poétique persane, et s'est battue contre les carcans de la métrique et de la rime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on lit Folour Farrokhzad, on est au cœur de la poésie moderne de l'Iran. Bien sûr, dont le père est Nima, et nous connaissons aussi Sohrab Sepehri, qui était très proche de Folour, qui a aussi joué un grand rôle dans la modernisation de cette poésie nouvelle, ou poésie d'aujourd'hui. Folour avait cette préférence d'appeler non pas nouvelle poésie, cette poésie qu'a commencé donc Nima, mais poésie d'aujourd'hui.
Seule la voix demeure. Pourquoi m'arrêterais-je? Pourquoi? Les oiseaux se sont envolés vers la côte bleue. L'horizon est vertical. Et le mouvement est pareil à un jet d'eau. Et les planètes lumineuses tournent dans le champ de vision. La terre se multiplie dans les hauteurs. Et les puits aériens se transforment en galeries de liaison. Et le jour est une étendue que le petit cerveau d'un verre de papier ne peut pas contenir. Pourquoi m'arrêterais-je? Le chemin passe à travers les vaisseaux de la vie. La qualité du sol de la matrice de la lune tuera les cellules contaminées. Et dans l'espace chimique de la pré-levée du jour, seule la voix demeure.
Je m'appelle Sorour Kasmai. Je suis romancière franco-iranienne, c'est-à-dire j'écris dans les deux langues. J'écris aussi bien en persan qu'en français, tous mes romans. Donc je suis très attachée aux traditions romanesques de la langue française pour travailler, et je suis très attachée aux traditions poétiques de la langue persane pour travailler aussi, pour écrire.
Tanha sedast ki mimanad. چرا توقف کنم؟ چرا؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند. افق عمودی است. افق عمودی است و حرکت فواره وار. و در حدود بینش سیاره های نورانی می چرخند. زمین در ارتفاع به تکرار می رسد. و چاهای هوایی به نقب‌های رابطه تبدیل می‌شوند
و روز وسعتی است که در مخیله تنگ کرم روزنامه نمی گنجد. چرا توقف کنم؟ راه از میان مویرک های حیات می گذرد. کفیت محیط کشتی زهدان ما سلولهای فاسد را خواهد کشت و در فضای شیمیایی بعد از طلوع تنها صداست، صدا که جذب ذره های زمان خواهد شد. چرا توقف کنم؟
Et dit, depuis toute jeune, j'ai lu Hafez et Saadi et je les connais par cœur. Ce qui était comme une montagne sur ses épaules, c'était, je pense, les carcans de cette tradition poétique qui voulait tout mettre dans les règles de la métrique très ancienne et qui nous venait peut-être aussi de la langue arabe. Et donc Nima a commencé ce mouvement de s'en débarrasser. Mais Nima n'a, comment dire, un avis commun, Nima n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Nima a cassé bien sûr ce carcan, cette métrique, etc., a dépassé la rime, mais vers la fin de sa vie, il a essayé d'expérimenter des choses nouvelles, c'est-à-dire juxtaposer des métriques anciennes, etc. Mais ce que Furour a fait, elle le dit, elle le revendique et dit « Nima s'est arrêté à mi-chemin alors que Sepehri, Chamblou et moi-même, nous sommes allés beaucoup plus loin. » Donc elle est consciente de ce qu'elle a apporté, elle, en tant que poétesse, parce que vous savez, la première approche qu'on a de Furour, et pendant longtemps cela me repoussait, parce que on dit toujours de Furour que c'est la sensualité féminine, c'est le corps au centre de sa poésie, etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai.
Ra az miyan mouyrak-hay hayat migozarad. Kefiyat mohit kishti zehdan ma سلول‌های فاسد را خواهد کشت و در فضای شیمیایی بعد از طلوع تنها صداست.
1956, publication de son deuxième recueil de poésie, Le Mur. Premier voyage en Europe.
صدا که جذب ذره‌های زمان خواهد شد.
1958, publication de son troisième recueil, Révolte. Rencontre et liaison avec Ibrahim Golestan, intellectuel et directeur d'un studio de cinéma au sein duquel elle travaille en tant qu'assistante. Cet emploi lui assure une indépendance financière. L'année d'après, elle voyage en Angleterre pour suivre une formation de monteuse de cinéma. S'affichant avec Golestan, Furour Farzad est critiqué pour avoir une aventure avec un homme marié. 1962. Réalisation de La Maison est Noire. Film documentaire en noir et blanc sur une léproserie à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Ce court-métrage est remarqué en Iran et en Europe, notamment en France par Chris Marker. 1963. Furour Farzad joue dans la pièce Six personnages en quête d'auteur de Pirandello, mise en scène par Paris Sobeni. Elle brille dans le rôle de la belle-fille. La pièce est un succès et sa première expérience de comédienne de théâtre est saluée. 1964, publication de Une autre naissance. Ce quatrième recueil est particulièrement célébré par les critiques littéraires de l'époque. 1967, le 14 février, elle meurt des suites d'un accident de voiture.
J'aime bien l'idée de l'imaginer conduisant très vite. Il faut que je la sauve toujours de ce côté trivial. Non, mais c'est vrai, je me dis, elle allait chercher une bobine de film, enfin, il y avait tout un truc comme ça, elle est au studio Golestan, et puis, j'ai envie de me dire qu'elle s'est dépêchée d'y aller, qu'elle avait mis une cigarette, qu'elle faisait pas attention, et qu'elle discutait avec le... Parce qu'elle était pas toute seule dans la voiture. Il y avait un chauffeur. Ça qui est très étrange, il y a le chauffeur du studio avec, dans lequel elle travaille, mais qui ne conduit pas la voiture. Attendez, je vérifie mes sources encore une fois, mais ça, je trouve ça dingue. Pourquoi c'est elle qui conduisait ?
C'est très beau parce qu'à un moment, dans un de ses entretiens, elle parle des femmes d'aujourd'hui qui grillent des feux rouges dans les rues de Téhéran, en souriant du coup de la poésie classique persane. Et en fait, on a l'impression qu'il y a certains moments où elle donne des coups de volant. C'est-à-dire qu'en fait, elle traverse un paysage et d'un coup, elle le quitte. Donc elle passe peut-être d'une lumière à une autre, d'une luminosité à une autre. Et il y a des images effectivement assez noires, notamment dans ses poèmes d'insomnie, on pourrait dire. C'est beaucoup une poésie d'insomnie et d'introspection. Et dans tout ce que ça peut avoir de douloureux, d'inquiétant. Et après, avec aussi une ironie là-dessus, un sourire qui brise cette angoisse-là ou qui regarde son angoisse. Et qui d'un coup passe, je sais pas, à ce qu'elle voit au travers d'une fenêtre.
Que m'importe le mouvement insignifiant du ver dans le trou de la chair. Ma lignée des fleurs m'a engagée à vivre. La lignée des fleurs, vous connaissez ? Je suis de la lignée des fleurs, pour moi, c'est... Je suis de celle qui... va justement puiser dans la terre, donc toute cette dimension terrestre de la poésie de Foulour aussi, je vais aller puiser par mes racines, dans la terre, pour m'élever et aller vers cette beauté-là. Cette beauté qui est là, qui est juste là, inutile, innocente, on peut la voir comme on veut. Et je trouve que être de la lignée des fleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, dans d'autres poèmes, elle insiste là-dessus, c'est elle appartient à la nature, elle le dit souvent. Elle va prendre son souffle dans le renouveau perpétuel, permanent de la nature.
L'oiseau est mortel. J'ai le cœur lourd, le cœur lourd. Je vais sur la terrasse et je glisse mes doigts sur la peau tendue de la nuit. La lumière des liens est éteinte. La lumière des liens est éteinte. Au soleil, personne ne me présentera. Au banquet des moineaux, personne ne me conviera. Souviens-toi de l'envol, l'oiseau est mortel.
Le motif de l'oiseau chez Foulour, je pense qu'il ressemble à aucun autre. Vous savez, dans la grande poésie persane, l'oiseau, c'est d'abord Simor. Simor, c'est le grand oiseau qui vole vers la montagne mythique de Kaf, etc., et qui est un symbole de l'union de tous les êtres, etc. Ce qui est intéressant chez Foulour, c'est que l'oiseau, je dirais, est ramené à l'échelle terrestre, mais l'oiseau, c'est plutôt le moineau. C'est plutôt un oiseau très, fragile. Il y a bien sûr le corbeau, mais quand, par exemple, elle évoque Simor, qui est l'oiseau mythique, c'est par son nid déserté qu'elle l'évoque. C'est-à-dire, on voit encore cette idée de désert. Donc, l'oiseau, bien sûr, elle a aussi un vers très, très populaire. L'oiseau est mortel, l'oiseau périra. Souviens-toi de l'envol. Et ça, je pense que ça aussi, c'est une des points, si vous voulez, centraux de la pensée de Foulour.
Tous les poèmes ne sont pas tenus de sentir bon. Ça, effectivement, c'est une phrase qu'elle a pu prononcer dans un entretien radiophonique. Et en fait, c'est aussi cette manière qu'elle a de regarder la poésie depuis aussi son époque. Et quand elle dit notamment cette chose-là, c'est par rapport à l'un de ses poèmes qui s'appelle... Pays de merveilles, qu'on peut traduire par pays de merveilles, sur l'Iran de ces années-là, et où elle dit, l'odeur d'urine, où des poètes de mon époque vont chercher la rime dans les poubelles. Il y a quelque chose aussi d'un regard très dur sur son époque, sur l'Iran de son époque, sur les élites qui méprisent le peuple, qui ont un rêve de modernisation effrénée, capitaliste. Ô pays de richesse, j'ai gagné. Je suis enfin inscrite. On m'a offert un nom sur une carte d'identité et un numéro pour ma vie. Alors vive le 678 du 5e arrondissement de Téhéran. Maintenant, mon esprit est en paix, nourri au sein de la mère patrie, au lait d'un glorieux passé, bercé de civilisation et de grande culture, au son du hochet de la loi. Oh, maintenant mon esprit est en paix, je suis si heureuse que je suis allée à la fenêtre pour inspirer avec joie 678 fois une épaisse poussière, un air saturé de poubelles et d'urine, et j'ai signé 678 factures, 678 demandes d'emploi, Furur Farozad. J'ai fait mon premier pas dans la vie au milieu d'un grand peuple. La force majestueuse du progrès l'a conduit à découvrir les néons, à créer des nuages artificiels, et bien sûr des centres commerciaux de recherche avec leurs comptoirs de kebab. J'ai fait mon premier pas dans la vie au milieu d'un grand peuple, qui n'a pas de pain mais qui vit dans un lieu où l'horizon est vaste, dégagé, un lieu dont les frontières s'étendent aujourd'hui au nord vers la place des Fusillades, pleine de fraîcheur et de verdure, au sud, vers la vieille place de la Pendaison, et au-delà des quartiers pleins de clameurs jusqu'à la place de l'Artillerie.
Moi, quand je lis la poésie de Furur, j'ai pas l'impression qu'elle me parle de l'Iran. J'ai l'impression qu'elle me parle d'elle-même, de sa vie, d'un intérieur. Elle, en fait, ça, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des éléments de la maison, des éléments, absolument des objets du quotidien, des objets anodins qui n'ont rien à faire dans la poésie. Le balai, Hose, la fontaine, le jardin, la lucarne, le... Odor, comment on peut dire, c'est les lampes à pétrole, là, vous voyez, les, la cigarette. Voilà, c'est... C'est, ouais, c'est ça. C'est la présence, en fait, de quelque chose de, voilà, vraiment, de, qui nous entoure, d'objets qui nous entourent, et elle leur donne une couleur poétique.
Furur a 5 recueils, et si vous regardez les titres de ces recueils, c'est l'histoire de sa vie personnelle. C'est-à-dire, elle commence par la captive, elle est captive de cette société patriarcale qui la laisse pas vivre comme elle veut vivre, être elle-même, écrire, etc. Puis arrive le mur, donc ce mur qui l'encercle parce que ses règles, ses traditions, etc., elle dit quelque part, je frappe contre ce mur de mes poings pour y faire une brèche. Et c'est ça exactement ce qu'elle fait, autant dans sa vie privée que dans sa vie poétique.
J'ai le sentiment que ma vie est foutue. Je sais beaucoup moins que ce qu'on doit savoir à l'âge de 27 ans. Peut-être parce que je n'ai jamais eu une vie claire. Cet amour et ce mariage ridicule à 16 ans ont ébranlé les fondations de ma vie future. Je n'ai jamais eu de guide dans ma vie. Personne ne s'est occupé de mon éducation intellectuelle et spirituelle. Tout ce que j'ai obtenu vient de moi-même. J'aurais pu accéder à tout ce qui me manque, mais les égarements, les méconnaissances de soi et les impasses de la vie m'ont empêché d'atteindre mes buts. Je vais recommencer. Je suis Gilda Chaverdi. J'ai grandi en France. Je suis venue en France à l'âge de 4 ans. J'ai appris le persan avec mes parents. J'ai conservé, gardé la pratique de la langue, puisque je m'adresse à eux en persan. Je l'oublie, Furur Farorzan. Je l'oublie, j'en garde ce qu'elle m'a, les espaces de lecture et de connexion à la vie qu'elle m'a apporté. Ces mots, ces rythmes, ce désarroi et cette intensité dans la vie, accueillir toutes les secondes avec tous les pores de son corps, ce qui lui arrive. Elle a cette force inexplicable et qui est humain et qui, j'ai le sentiment qu'elle aime un être humain de la même manière qu'une fleur, qu'une pierre, que les éléments, c'est-à-dire qu'elle est, elle est une partie entière de tout ça.
Le troisième, c'est rébellion. Donc voilà, elle se rebelle comme ça. Déjà, elle introduit cette sensualité. Alors, le plus connu, c'était le premier, qu'on trouve le vers le plus érotique de la poésie persane. J'ai péché, péché dans le plaisir, etc. Mais il y a le mot péché. Alors qu'à la fin, il n'y a plus la pensée du péché. Et puis, on arrive au quatrième recueil, qui est pour moi un tournant dans le travail, la carrière de Furur, c'est une autre naissance.
Ma vie entière est un verset noir qui t'invoque encore et toujours et t'emportera à l'aube des bourgeons et des floraisons sans fin. Dans ce verset, j'ai soupiré pour toi. Ah. Dans ce verset, je t'ai mêlé à l'arbre, à l'eau et au feu. La vie, c'est peut-être une longue avenue qu'une femme traverse chaque jour avec un panier. La vie, c'est peut-être une corde avec laquelle un homme se pend à une branche. La vie, c'est peut-être un enfant qui rentre de l'école. La vie, c'est peut-être allumer une cigarette quand on se délasse entre deux étreintes, ou le regard hébété d'un passant qui ôte son chapeau devant quelqu'un et dit bonjour avec un sourire vide. La vie, c'est peut-être cet instant captif où mon regard s'anéantit dans la pupille de tes yeux, et cette sensation se mêle en moi à la vision de la lune et à l'impression de la nuit.
Une autre naissance qui est une réplique à une autre mort de Eliot dans La Terre vaine, dans le Voyage des mages. Le dernier vers, c'est « J'aurais voulu une autre mort ». Et Furur, dans un rapport d'intertextualité, appelle cela une autre naissance. Parce qu'on verra plus tard, dans ce recueil et le recueil d'après, Ayons foi en le commencement de la saison froide, qui est pour moi une sorte de credo, comme Iago dans Othello, c'est le credo en le début de la saison froide. Elle le dit, elle martèle à chaque vers. Une autre naissance vient avant la saison froide, et la saison froide, elle explique qu'elle est une femme seule au début de cette saison froide. Mais la mort, comme l'hiver, pour Furur, n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une renaissance.
سوی بر ما زیرا که روز رو به زوال نهاده است و سایه های عصر دراز
Bien sûr qu'il y a une métaphysique chez Furur.
چون قفسی که پر از پرندگان باشد از ناله های اسارت
Je pense que on n'a pas encore vraiment tout compris de la poésie de Furur. Parce qu'elle a beaucoup de références différentes, aussi bien dans la littérature iranienne que dans la littérature occidentale. Et ce qui peut-être entrave cette lecture approfondie, c'est peut-être cette simplicité apparente.
Hélas, le jour s'évanouit, et les ombres du soir s'allongent, et notre être, comme une cage remplie d'oiseaux et plein de gémissements de captivité. Et nul ne sait s'il durera longtemps. La saison des moissons est passée. L'été est terminé, et nous n'avons trouvé aucune délivrance. Comme les colombes, nous réclamons la justice. mais il n'y en a aucune. Nous attendons la lumière, mais seule vient l'obscurité.
Moi, les ténèbres, je pense à sa maladie, à sa dépression. Dans ses lettres, il y a quand même une véritable souffrance. Hein. Alors, je crois aussi, ses propres ténèbres intérieures, si vous voulez, pour moi, sont le reflet des ténèbres qui entourent sa vie et cette société iranienne qui est quand même très conservatrice, traditionnelle, enfin, avec une morale très, très établie, surtout sur le rôle des femmes hein, dans la société. Donc, il y a comme un effet de miroir entre ce monde qui ne lui convient pas, qui est étriqué pour elle, et ses ténèbres à elle qui sont à l'intérieur d'elle. Donc il y a cette idée de la maladie, il y a cette idée de la dépression. Parce que je pense que cette maladie heureuse, elle l'acceptait et qu'elle lui permettait aussi de créer, en fait. Dans ces phases-là de fulgurance, il y avait comme une urgence pour elle aussi d'écrire, de produire, de créer, voilà. Et donc, peut-être que cette maladie heureuse, elle est heureuse par justement l'extrême sensibilité dans laquelle elle était placée et qui lui permettait d'atteindre la poésie. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Vous savez qu'elle pensait à la mort et elle avait fait des tentatives de suicide. Elle avait aussi passé un mois dans un asile psychiatrique. Donc, on lui a mené aussi la vie dure. Aussi bien sa famille, son premier mari, la société. Parce que son premier poème a fait un énorme scandale. Justement, péché, péché dans le plaisir. Et on l'a souvent réduit qu'à ça, que la poétesse qui a scandale. Qui part que de faire l'amour, du lit, etc. Et au fait, non, au fait, on voit dans l'évolution, la courbe de l'évolution de la poésie de Fourour, qu'il y a toujours des images apocalyptiques, des tableaux très noirs, mais en même temps, il y a une force qui ne veut pas céder à ça, qui ne veut pas... Donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi, quand on traduit, il faut penser à ça aussi. Ce qu'il y a derrière, la pensée qu'il y a derrière ces mots. Il n'y a pas que, quand elle dit oiseau, c'est pas que l'oiseau de son petit jardin. Il y a peut-être autre chose. Ou l'arbre, par exemple, c'est un des symboles. Il y a beaucoup de symboles dans la poésie de Fourour. L'arbre, par exemple. Ou la lumière, ou la nuit. Rencontre dans la nuit, c'est un de ses poèmes les plus allégoriques, par exemple. Et puis, le fait d'être attirée par Baudelaire, par les fleurs de mal, parce qu'elle l'avait lu. À l'époque, beaucoup de poètes iraniens lisaient, surtout la nouvelle génération, lisaient beaucoup Baudelaire. Parce que revenir vers les symboles que Baudelaire a poétisés, c'était important. Même si, personnellement, je suis d'avis que c'était Eliot qui lui parlait le plus. Et puis elle lisait un peu l'anglais, et il y avait beaucoup de traductions aussi d'Eliot en persan.
بر این پرده اکنون نقشی از یک زشتی دیدی از یک درد خواهد آمد که دیده بر آن بستن دور است از مروت آدمی.
La maison est noire, le titre vient d'un
این زشتی را چاره ساختن به درمان این درد.
Une phrase qu'écrit un élève sur un tableau.
داران آن یاری دادن مایه ساختن.
L'instituteur lui demande d'écrire une phrase avec le mot maison et l'élève écrit la maison est noire et c'est devenu le titre. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette maison, cette maison des lépreux. Cette léproserie, en fait, plutôt. Alors, dans mon souvenir, le premier plan, c'est une femme qui se regarde dans un miroir. Elle a un voile qui lui cache la moitié du visage. Et sur le miroir, il y a des fleurs qui sont gravées. Et on voit son reflet. On la voit se regarder dans le miroir.
Alors on a essentiellement la voix de Folour Farorzad sur les images. Et on a également des sons, des chants, des rythmes qui sont aussi très importants. Et c'est là où la voix de Folour va rajouter... Pour moi, elle n'instrumentalise pas du tout les images. Elle rajoute une autre dimension à ces images. Et elle arrive à enregistrer... Enfin, pour moi, c'est ça qu'il y a de très singulier dans ce film qui pourrait être, entre guillemets, un film d'ONG. Hein. Le but, c'est d'envoyer, grosso modo, de l'argent à la fin du film. Et elle ne nous prend jamais en otage comme spectateur. Il n'y a pas de musique larmoyante. Il y a des voix, c'est très important. Il y a le rythme de la voix de Folour sur ces images qui affrontent l'horreur, mais qui n'en font pas un objet, elle ne filme pas l'horreur pour l'horreur. Elle filme ce qui est difficile à soutenir pour notre regard et elle nous invite à être responsable de notre regard. C'est-à-dire qu'elle va filmer des gens atteints de la lèpre, d'autres qui n'en sont pas. Et notre regard va en permanence, je pense, chercher ceux qui sont atteints, ceux qui n'en sont pas. Elle ne nous habitue jamais. Et on a cet accompagnement par la voix qui amène une autre dimension aussi à cette vie qu'elle filme, la douleur et la beauté, et la voix qui peut nous amener ailleurs. Je m'appelle Agnès de Victor, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai beaucoup travaillé sur le cinéma iranien et en Iran.
Dire qu'elle n'avait jamais fait de cinéma, donc elle avait une sorte, elle avait puisé en elle cette force d'aller dans cette léproserie et de montrer sans filtre cette ruine, cette faillite, ces hommes, ces enfants, ces femmes qui n'ont plus de corps, alors qu'elle, elle était le chantre de ce corps qu'elle mettait, le corps de l'amant, etc. Elle a donné une image au corps masculin, elle a poétisé le corps masculin dans la poésie iranienne, parce que dans la poésie classique avant elle, et même dans la poésie moderne, le corps masculin n'était jamais, si vous voulez, chanté ou dit poétiquement. C'était toujours les femmes. Et là, elle a... Cette poétesse-là, avec ce regard enchanté sur le corps, elle va dans cette léproserie où c'est la ruine du corps. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'en sort pas indemne, parce que elle adopte un petit garçon, et toute sa vie, elle reste avec... elle s'occupe de ce garçon, après, quand elle n'est pas là, c'est sa mère qui s'en occupe. Mais je pense que puis ce film a été remarqué... dans les festivals, en Europe, en Allemagne. Ça lui a permis de rencontrer des gens importants. Elle avait un malaise, elle disait « j'ai fait qu'un film, je vais voir Godard ». Elle a connu Godard, elle a serré la main à Pasolini, elle a été présentée à Bertolucci, qui après est revenu faire un film sur elle, etc. Donc ça l'a d'un seul coup transportée à un autre niveau. Et c'est certainement, oui, un poème visuel.
La maison est noire, c'est l'idée que, voilà, l'idée du secret, l'idée de ce qu'on cache aussi à l'intérieur de soi et que Folour, par sa poésie, révèle. Et c'est ce qu'elle fait avec ses lépreux. Elle les amène à la lumière et sans aucune condescendance, sans aucune un sentiment charitable ou je ne sais quoi. Elle montre, elle révèle.
Il y a cette idée de ne pas baisser les yeux dans ce film, que je trouve très belle. C'est-à-dire qu'on soutient les yeux, on soutient les regards. On ne euphémise pas. Et on regarde avec, je trouve, une grande tendresse. Et il y a une persistance des visages. C'est-à-dire que ce n'est pas un inventaire. C'est beaucoup de visages adviennent. Et il reste sur la rétine.
Bien sûr que ça voirait encore plus, j'ai envie de dire, maintenant, aujourd'hui, avec ce que nous avons vu en termes de, je ne sais pas comment nommer cela, à partir de septembre 2022, ces femmes qui soudain se lèvent et dressent le poing et enlèvent le foulard, le voile. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec Foulour dans les années 50, 60 et qu'il le clamait déjà, en fait, à sa façon. Bien sûr que sa voix, elle reste.
Foulour a commencé peut-être seule ce qu'elle voulait, cette révolution antipatriarcale qu'elle voulait. Elle n'était pas politicienne, elle ne se mêlait pas de la politique, elle n'était pas dans les partis, etc. Mais ce qu'elle voulait faisait trembler vraiment le fondement de la société patriarcale iranienne, même avant la révolution islamique. La révolution islamique, c'était encore plus, si vous voulez, réprimer la voix de ces femmes qui commençaient, la femme iranienne commençait. C'est une lutte qui dure depuis plus de 100 ans. La femme iranienne a commencé à s'émanciper, à réclamer la liberté vers la fin du 19e siècle. Mais la voix de ce mouvement clandestin qui était encerclé dans les maisons justement aristocratiques avec une partie intérieure, une partie extérieure, dans cet habillement avec ce foulard, ce tchador, etc. La voix qui a, si vous voulez, exprimé ce cri de la femme iranienne, c'était sans aucun doute Foulour.
Elle est enterrée au cimetière Zahir-e-Dowleh de Téhéran. Son poème, Le Don, issu d'une autre naissance, est gravé sur sa pierre tombale.
Du fond de la nuit, je parle, du fond de la nuit, du fond de l'obscurité. Ô ami, si tu viens dans ma maison, apporte-moi une lumière et une petite fenêtre, que je puisse voir la foule dans la rue heureuse.
Foulour Farrokhzad incarnait la lumière, avec la traductrice Laura Tirandas, l'éditrice Sorour Kasmaï, la romancière Mariam Majidi, la poétesse Niloufar Sadighi, la spécialiste du cinéma iranien Anès de Victor, Mira Debbouze, autrice d'un court-métrage consacré à la poétesse, l'artiste iranien Alireza Aspidkar. Bibliographie complète sur le site de l'émission. Texte dit par la comédienne Gilda Chaverdi. Toute une vie, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Sandrine Chaperon, prise de son Éric Boisset et Olivier Leroux, mixage Éric Boisset, réalisation Franck Lilin, une émission proposée par Michel Pomarède.